Et je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Voilà, c'est là l'expression d'un cœur reconnaissant, non pas seulement le dimanche matin, mais en tout temps. Peuple, bénissez l'Éternel. Et nous sommes au rang de ceux qui, parce que le Saint-Esprit est venu habiter nos cœurs, n'avons de cesse de le remercier, de le louer, de le bénir, de lui rendre grâce et de toujours avoir ce désir dans le cœur d'œuvrer pour lui être agréable. Gloire à Dieu.
Alors, nous allons regarder pendant quelques minutes, hein, puisque le temps a passé à grands pas, mais peu importe le temps, c'est Dieu qui fait le temps, c'est lui qui le maîtrise, c'est lui qui le tient. Et c'est dans sa présence que nous allons maintenant partager sa pensée. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, au verset 9. Le maître est là. Et comme il a été dit à Marie, le maître est là et il te demande. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors, regardez avec moi, frères et sœurs en Christ, cette lecture de l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. L'apôtre dit, pour vous qui êtes déjà à la page, car nous sommes, dites avec moi, ouvriers avec Dieu. Point. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Dans l'explication ou la considération du mot « ouvrier », notre énoncé pourrait nous amener à définir l'expression « ouvrier avec Dieu » car nous sommes compagnons d'œuvre de Dieu. Ouvrier avec Dieu ou compagnons d'œuvre de Dieu. Puis il continue pour exposer un peu la situation à Corinthe. Vous êtes le champ de Dieu. Mais il ne s'arrête pas simplement à définir l'église de Corinthe comme le champ de Dieu, mais il prend aussi cette image qu'il mentionne dans la deuxième définition. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, un champ et un édifice. Donc, il y a quand même une différence. Dans la considération, il y a quand même une différence. Vous êtes d'accord? Un champ se situe sur la terre. Mais oui, c'est sur la terre. Mais l'édifice sort de la terre. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais il définit l'Église à Corinthe comme étant d'abord un champ. Donc, s'il dit champ, il est pensable que dans un champ, on cultive, on plante. Mais avant de cultiver, de planter, faut semer, et avant de semer, faut défricher. Et après avoir défriché, il faut labourer. Donc il y a tout un chantier, tout un travail. Derrière le mot champ, hein. Donc simplement, il a dit, vous êtes le champ. Mais moi, il dit, vous êtes le champ, mais moi, dans mon esprit, il faut que je travaille pour voir qu'est-ce que, à partir du champ, je peux trouver. Même on irait beaucoup plus loin, hein. Je vous le dis, il y a beaucoup de choses à considérer. Parce que si c'est un champ où j'ai planté des abricotiers, c'est encore un autre cadre. Ce que j'ai planté comme abricotiers est appelé d'abord à produire. Mais n'allez pas si vite. Avant le fruit, il faut bien les fleurs. Et avant le fleur, il faut les feuilles. Ben oui. Donc c'est un grand programme. Et si nous voudrions prendre ça Au pied de la lettre, je dis que nous avons au moins pour une semaine d'enseignement là-dedans. Mais on va essayer d'aller au rythme que le Saint-Esprit nous donne ce soir dans l'instant de la méditation. Et puis, continuons notre lecture. Donc, nous avons lu la déclaration de l'apôtre définissant l'Église de Corinthe, où ce qu'il veut nous amener à saisir, on n'est pas à Corinthe, on est à Paris, mais l'enseignement des Saintes Écritures est toujours valable pour nous ce soir. Et puis, qu'est-ce qu'il dit, verset 10 ? Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. C'est beau. Et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. J'aime ce que je lis. Et il faut que ce que je lis, puisque je l'aime, je le vive. Si Jésus-Christ est le fondement, alors l'édifice va tenir. Mais si Jésus a placé un ouvrier dans son champ, l'œuvre va prospérer. Si c'est Jésus qui établit un instrument dans une œuvre, il y aura du fruit. Mais si vous vous établissez vous-même, où votre établissement est le résultat d'une combine bien arrangée, danger. Danger d'abord pour vous, parce que vous allez usurper une place où Dieu ne vous cautionne pas. Deuxièmement, danger pour ceux qui vous écoutent, parce que vous n'êtes pas autre chose qu'un élément où malheureusement l'ennemi va s'infiltrer pour pouvoir créer beaucoup de difficultés jusqu'à ce que les brebis soient dispersées et que par certains aspects se mettent à commencer à se manger de la laine sur le dos. Après la laine sur le dos, ce soit des coups de tête. Après des coups de tête, des blessures, des disputes. Eh bien, à Corinthe, ça se passait par le langage. Mais on va y venir tout à l'heure. Regardez un peu plus haut. Verset 5, toujours dans 1 Corinthiens 3. L'apôtre dit, qu'est-ce qu'Apollos ? Qu'est-ce que Paul ? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur leur a donné à chacun. Ça veut dire que c'est le Seigneur qui les a placés. Le Seigneur les a placés. Et voici le travail dont l'apôtre fait mention pour montrer que non seulement il savait qui l'avait placé, et il savait aussi le travail qu'il était appelé à exécuter. Qu'est-ce qu'il déclare ? J'ai planté, après, Apollos a arrosé, mais... Ah, mais c'est Dieu qui fait quoi ? Moi, j'ai fait mon travail, j'ai planté. Je suis dans le champ, là où Dieu m'a placé. Apollos, il a arrosé ce qui a été planté dans le même champ. Parce que Dieu l'a placé. Mais c'est Dieu qui fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Celui qui plante n'est pas autre chose qu'un ouvrier avec Dieu, placé dans le champ de Dieu. pour faire le travail que Dieu lui a demandé de faire. Et puis après, regardez. Mais c'est Dieu qui fait croître. Verset 8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Est-ce que vous dites amen? Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Alors, frères et sœurs en Christ, pour avancer dans la méditation, cette déclaration de l'apôtre à partir du verset 9 que nous avons considéré n'est pas autre chose qu'un désir de montrer à Corinthe qu'il vivait dans la révélation du plan de Dieu et il en était un instrument dans le déroulement de ce plan. Il avait la connaissance du rôle qui était le sien. Il savait le travail que Dieu lui avait départi. Il connaissait la mission qui était la sienne. Et il savait à quel dessein Dieu l'avait appelé. Ça, c'est la plus belle chose, frères et sœurs en Christ, lorsqu'un instrument est dans la main d'un maître. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Il devient avec lui un collaborateur, un compagnon d'œuvre, de telle sorte qu'il ne fait pas ce qui lui passe par la tête. Pour preuve, je m'applique ce que je vous dis, je me l'applique. Vous allez rentrer avec moi chez moi dans mon bureau, à la maison. Vous allez me voir à genoux devant Jésus, à ses pieds, préparant la réunion de ce soir. Et vous allez écouter ce que je lui demande. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prêche ce soir? Qu'est-ce que tu veux que je dise à tes enfants? Quelle direction prendre? Seigneur, ce n'est pas moi qui commande, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La bonté du maître, à mon égard, mais surtout pour vous, qui êtes le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit m'amène l'écriture dans mon esprit, donne la direction. Vous savez, quelquefois, quand Dieu vous donne sa direction, il y a toujours quelque chose en vous qui voudrait manifester sa réticence. Seigneur, c'est vraiment ce que tu veux que je prêche, Seigneur. Alors, progressivement, le Saint-Esprit, il impose la pensée de Dieu à votre esprit. De telle manière, une fois qu'il vous l'a imposé, commence à vous donner un schéma directif de la manière que vous devez exposer le sujet. Alors je dis, Seigneur, maintenant, c'est à toi. Je n'ai pas dit, Seigneur, à toi de jouer. Seigneur, maintenant, à toi d'agir pour que ce que toi tu veux se fasse. Maintenant, j'ai compris ta direction. Je l'ai reçue, mais tu vas m'aider, Seigneur. Amen. Bien sûr. Ça, il faut être comme un enfant devant le Seigneur. Amen. Et quand vous êtes comme un enfant devant lui, concernant son œuvre, son plan, son dessein, sa volonté, oh, je n'étais pas obligé de vous dire ça, mais nous sommes ensemble ce soir dans l'œuvre de Dieu. Mais oui, on est ensemble, on n'est pas là pour... Le pasteur n'est pas là pour se montrer et exister. Non, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Certes, chacun est à la place que Dieu veut, on va le voir tout à l'heure dans l'édifice, mais l'important, c'est que Dieu nous donne à partager sa pensée. Alors, regardez avec moi. Donc, il explique un petit peu, au travers cette déclaration, nous sommes ouvriers avec Dieu, et derrière ses propos, il montre un petit peu l'instrument qu'il est devenu, le rang qu'il occupe, la place, mais surtout, il fait mention du choix de Dieu dont il est l'objet. Et qui peut mieux que lui savoir l'expérience qu'il a faite pour devenir ce qu'il est? Oh, quelle expérience! N'oublions pas, si nous devons faire un petit regard en arrière, que celui qui est mentionné ici pourra se définir lui-même dans l'épître à Timothée lorsqu'il dira: C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Moi qui auparavant étais un persécuteur, un blasphémateur et un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde. Il a obtenu miséricorde. Et puis après avoir obtenu miséricorde, son expérience que pour la plupart nous connaissons dans Acte 9 et qui nous amène aussi au témoignage de Acte 26, il expliquera devant le roi Agrippa vers le milieu du jour au roi. Je vis une lumière dont l'éclat surpassait celui du soleil. Expérience merveilleuse, car cet éclat émanait de la personne de Jésus-Christ ressuscité, mais Jésus-Christ glorifié, Jésus-Christ intronisé, alléluia, Jésus-Christ dans le royaume de Dieu. Et puis, il expliquera que nous tombons par terre, mais j'entendis une voix. C'est-à-dire, Dieu s'est adressé à lui personnellement. Indépendamment des autres, nous tombons par terre, mais j'entendis une voix. Et cette voix, c'est Saul, Saul, pourquoi? Pourquoi me persécutes-tu? Il a dit lui-même, j'étais un persécuteur. J'étais un blasphémateur et j'étais un homme violent. Mais Dieu lui dira, je t'ai choisi du milieu des païens avec qui je t'envoie. Et la mission qui désormais te sera mise à charge, eh bien tu vas devoir prêcher la repentance. Et tu vas les amener à passer des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Tu vas les amener aussi à être au rang de ceux qui reçoivent l'héritage avec les sanctifiés. Alors il expliquera que à cause de cette expérience bénie, eh bien, il n'a pas arrêté. Pourtant, il allait à Damas pour amener liés tous ceux qui se rassemblaient pour invoquer le nom de Jésus de Nazareth. Mais en chemin, il est saisi et la mission change. Il ne va plus pour les ramener liés, mais il va, et à ceux de Damas d'abord, lui prêcher la repentance. Gloire à Dieu. Donc c'est un homme qui a fait avec le Christ Jésus une expérience. Et s'il est à Corinthe, il est un instrument dans la main de Dieu pour amener aussi l'œuvre de Dieu à grandir et à se développer. J'ai planté. Et comme je viens de vous dire, avant de planter dans un champ, il y a tout un travail en amont. Il faut défricher. Et lorsqu'il s'agit de défricher, quelquefois il y a des racines qui sont dures. Il y a des pierres qu'il faut bouger. C'est tout le travail du Saint-Esprit dans l'évangélisation. Déracine l'idolâtrie dans les cœurs. Déracine nos conceptions. Déracine nos traditions. Déracine tout ce à quoi on était confronté, qu'on a reçu depuis l'enfance et qui constitue des obstacles, des pierres pour empêcher la réception de Jésus de Nazareth. Une fois que le travail est fait, on tombe sur sa face. Et l'une des premières choses que Dieu fait dans un cœur, lorsqu'il œuvre pour nous amener à la repentance, il nous débarrasse de l'idolâtrie. Alléluia! Il nous débarrasse de l'idolâtrie. Isaïe l'avait prophétisé, lorsqu'il lira dans ce texte, en révélant l'oracle divin, il dira cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. La grâce et la miséricorde, n'est-ce pas ce qui découle de l'œuvre de Jésus à la croix? Oui, peuple d'Israël, tu ne pleureras plus. Car dès qu'il aura entendu, il répondra. Et puis, dans ce qui est exposé, il dira, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin, marche-y. Comme conséquence, quand vous iriez à droite ou vous iriez à gauche, et vous tiendrez pour souiller l'or qui recouvre vos idoles. Dieu débarrasse le cœur de l'idolâtrie. Ce que nous vénérions, même qui était couvert d'or, une fois que Jésus prend la place, Dieu le diras-tu. Tu n'as plus rien à faire de ma vie. Jésus te met dehors. Alléluia. Et Jésus a mis de mon cœur dehors la Vierge Marie. J'ai pas honte de le dire, hein. La Vierge Marie avait une place prépondérante dans la vie de Monsieur Gentil-Claude. Mais quand Gentil-Claude est devenu un enfant du Père, tout en respectant la Vierge Marie, elle est ce qu'elle est dans la religion, mais elle n'a plus de place dans mon cœur. Alors, qui c'est qui a pris la place, pasteur? Comment vous répondez à ma place? Laissez-moi répondre. Je me pose la question, permettez que je réponde pour moi-même. La place est occupé maintenant par Jésus. Et qui c'est qui est à côté de Jésus? Personne d'autre. Jésus est assis sur le trône de mon cœur. Certes, je ne peux dissocier Jésus du Père, ni du Saint-Esprit, ni de la parole. Mais quand je mets Jésus en évidence, le Père est là. Parce que le Père est lié au Fils. Et le Saint-Esprit est lié au Père, l'Esprit Saint est lié au Fils, l'Esprit Saint est lié à la parole. Parce que la révélation, c'est dans la parole que je l'ai reçue. J'ai reçu la révélation parce que Jésus a été prêché dans l'Évangile. Alléluia. Nous sommes le champ de Dieu. Il faut défricher. Et quand l'apôtre parle de défricher, vous savez, frères et sœurs en Christ, certes, quand nous avons cru pour le salut, il y a des choses qui ont été le fruit du défrichage, le résultat du travail du défrichage. Mais savez-vous que tout le long de la vie chrétienne, il y a encore des choses à défricher, à enlever, à retirer. C'est ce qu'on appelle le processus de la sanctification. Ça veut dire que jusqu'à ce que je rende le dernier souffle, il y aura toujours quelque chose à enlever en moi. Eh bien, laissez-moi vous dire que derrière ce processus de la sanctification, Dieu continue à œuvrer. Parce que si j'ai été sanctifié, donc séparé, c'est un aspect de la séparation pour appartenir. Désormais, moi, je me sépare pour servir. Et Dieu continue son travail pour que de plus en plus je sois à l'image du merveilleux modèle qu'il m'a donné à travers la personne de Jésus. Et que personne dans ce cadre l'a dit ce soir, moi, pasteur, j'en ai pas besoin. Je suis déjà arrivé au sommet. Laisse-moi te dire que si tu as cette pensée-là, tu t'illusionnes toi-même. Mais oui, tu t'illusionnes toi-même. Écoutez, il faut que nous soyons éclairés dans notre esprit. Le seul parfait que je connaisse dans ce cadre-là, en tout, il s'appelle Jésus-Christ. Certes, il est notre modèle. J'en suis d'accord. Mais tout en étant mon modèle, je suis tellement loin de lui ressembler. Oh, je sais que vous me direz, pasteur Gentil, et dans l'homme nouveau, oui, l'homme nouveau en moi, il n'y a pas de péché, c'est le caractère de Jésus, sa personnalité, et Dieu œuvre à partir de cet homme nouveau pour que de plus en plus, il y ait un épanouissement spirituel. D'accord. Mais je ne dois jamais oublier que j'ai une vieille nature, avec corrompue de son entendement, et qui malheureusement, fort souvent, cherchera toujours à s'exprimer à partir de l'alimentation que va lui communiquer, qui? Mais quand l'ennemi agit, c'est ma chair qui va utiliser, hein, ma vieille nature. Hein, il va l'influencer. Et en l'influençant ma vieille nature, il va toujours essayer de me créer quelques désagréments pour m'empêcher d'obéir à ce que Dieu veut que je fasse. Voilà pourquoi l'apôtre dit, c'est pour cela aussi que vous devriez vous efforcer de lui être agréable. Donc s'il dit fort, ça veut dire que c'est pas facile. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais oui, frères et sœurs en Christ. Il faut que nous soyons conscients de cela. Car c'est le meilleur moyen de permettre à Dieu de nous aider à avancer. Mais quand je crois que je suis arrivé, ça veut dire que je montre au Seigneur, voilà Seigneur, c'est à cause de moi. Hein? Mais non, ce n'est pas à cause de toi, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, dit le Seigneur. Ce n'est pas mon esprit. Oh, ce n'est pas mon esprit. Ça veut dire que j'ai besoin de l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Dans le champ, il faut défricher. Après, il faut labourer. Il y a toujours dans le travail du labour des choses à enlever. Quelquefois, le laboureur, lorsqu'il défriche le champ, il travaille. Puis il arrive dans un moment où il y a des choses qui sont dures. Il faut déployer un effort supplémentaire. Ils font lever de la terre, ils font lever des pierres. Et tellement il cause, à un moment donné, vous voyez ce qu'il fait ? Il a tellement causé que de plus en plus, plus il descend plus, il cherche vraiment ce qui est solide. Alors, à un moment donné, vous savez ce qu'il fait ? Il va disparaître dans le trou qu'il a causé. Vous ne le voyez plus. Mais ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il ne travaille pas. Hein. Il s'est fixé un but. Il veut toucher le roc. Dans ma vieille nature, il y aura toujours quelque chose à faire. Donc ça veut dire le champ de Dieu. Et si nous sommes le champ de Dieu ce soir, si nous sommes ouvriers avec Dieu, nous les responsables, et mais le Seigneur sait nous donner les éléments pour que le travail continue, se perpétue. Parce qu'on n'a pas, pour certains, n'ont pas encore atteint la stature d'homme fait en Christ. Il y a encore du travail. Mais ce qui me donne de l'espérance et de la joie, c'est que le maître qui bâtit l'Église, il connaît chaque élément. Vous savez, le pasteur gentil que je suis, je me mettais toujours comme berger au niveau de la brebis qui a besoin de secours. Là où le Seigneur permet que je sois utile dans sa main. Mais je ne vais jamais amener un enfant de Dieu à tomber dans la complaisance, ni non plus dans l'assistance. Si vous faites de lui un assisté, à la longue, vous savez ce qui va se passer ? Vous allez l'empêcher de se développer. Non, mon travail pastoral, c'est de l'amener de plus en plus à s'attacher au maître. Être dépendant du maître. Et l'enseigner à recevoir du maître ce dont il a besoin pour son évolution personnelle, son développement, son fondement, son ossature, son centre de gravité. Enfin, le maître qui le connaît, qui l'a racheté, saura quoi faire pour l'emmener à grandir. Alors, je continue. J'étais à quoi ? Défricher, labourer, semer, et après, c'est le même processus. Il dit, j'ai planté. Mais après que j'ai planté, il va parler du travail de l'arroseur. Que fait l'arroseur ? L'arroseur arrose. Mais pour que l'arroseur arrose efficacement, il faut qu'il soit lui-même arrosé. Pour que l'arroseur arrose efficacement, il faut qu'il soit lui-même arrosé. Car si Dieu ne m'arrose pas, comment je ferai pour vous arroser par sa parole ? Alors il dit, j'ai planté, mais Apollos a arrosé. Alors, dans ce que j'ai lu, j'ai compris, puisqu'on l'a lu en amont, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais, c'est Dieu qui fait croître. C'est-à-dire de la croissance, c'est Dieu qui en est l'auteur. Alors, comment voulez-vous que Dieu fasse croître ce qui n'a pas planté ? Dieu ne fait croître que ce qu'il a planté, lui. Et Dieu n'arrose pour son développement que ce qui a été planté par lui. Si Dieu t'a planté, t'occupe pas de ce que les gens disent. Celui qui t'a planté, c'est lui qui va t'arroser. Ta croissance viendrait de lui par le Saint-Esprit. Et s'il t'a planté, ne laisse pas l'envie t'amener à regarder pourquoi le frère ou la sœur à côté de toi grandit plus vite que toi. C'est pas ton affaire. Laisse Dieu faire. L'important, c'est pas la croissance de l'autre, c'est ta propre croissance dans la main du maître. Oh, je crois que ce soir, le Seigneur est en train de mettre les points sur les i et chacun à sa place. Hein. Pour pas que nous puissions, frères et sœurs en Christ, nous laisser aller à des élucubrations. Non, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas d'élucubration. J'ai noté, Dieu ne fait croître que ce qu'il a planté. Dieu n'arrose que là où ce qu'il a planté demeure. Il y a certaines personnes qui, dans l'Église, par convenance personnelle ou parce qu'il y a une situation qui malheureusement a causé quelques difficultés, l'ennemi leur fait comprendre, excusez-moi du thème, il n'est pas évangélique, que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et vous savez ce qu'ils disent? J'ai quitté l'église, mais j'ai pas quitté le Seigneur. Vous avez dit qu'en parlant ainsi, il accepte que tu t'es déraciné toi-même et qu'en allant ailleurs, tu es en train de te planter là où Dieu ne t'a pas planté. Mais excuse-moi de te le dire, mais tu es en train de t'illusionner et tu te trompes par de faux raisonnements. Car là où tu iras te planter, il y a le risque, que tu seras tellement ébranlé, secoué, autant par certaines paroles que tu vas entendre, et là où tu as pensé que l'herbe était plus verte, parce que rappelez-vous, je prends un exemple biblique, hein, vous allez être d'accord avec moi. Vous connaissez le neveu de monsieur Abraham? Il s'appelait? Qu'est-ce que son oncle lui a dit? Qu'il n'y ait pas, je te prie, de discute entre nous. Pour le pays n'est-il pas devant toi? Devant nous. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. La Bible nous dit, l'autre leva les yeux. Et puis il a vu les plaines du Jourdain. Le Jourdain était bien arrosé. Et les plaines du Jourdain, lorsque les eaux du Jourdain débordaient à certaines périodes, temps de la moisson, charriaient des alluvions qui remplissaient la contrée. Et une fois que l'eau avait repris son cours et son lit, eh bien, les alluvions faisaient qu'il y avait une verdure, etc. Certes, il y avait du pâturage pour les brebis, d'accord. Certes, les yeux voyaient. Mais ce que les yeux ne voyaient pas, c'est que derrière cette plaine, qui ressemblait jusqu'à Sora, un jardin de l'Éternel, il y avait la corruption et le péché. Et ses yeux n'ont pas discerné. Il est allé s'établir dans le pays. Ses brebis ont été nourries, mais son âme était tourmentée jour et nuit par ce que ses yeux voyaient. La corruption et le péché d'homosexualité qui se retrouvaient à Sodome et Gomorre. Or, Satan a bien pris soin de lui masquer la réalité. Il en est ainsi du regard de la chair. Le regard de la chair est toujours suivi du choix de la chair. Et le regard de la chair suivi des choix de la chair est toujours suivi des conséquences qui en découlent. Oh, il est beau, c'est un beau garçon. Il a de bonne famille. Oui, d'accord. Tous tes sens sont en éveil parce que la convoitise de tes yeux a enclenché la convoitise de ta chair. Puis après, fiançailles, après mariage, et après, les yeux pour pleurer. Parce que tes yeux t'ont amené à des choix, mais tu n'es pas dans le plan de Dieu. Vous qui aspirez à avoir un mari ou une épouse, je vous en supplie, ne précipitez pas vos pas. Vaut mieux que vous cherchiez la face de Dieu personnellement pendant le temps nécessaire et attendre qu'il vous révèle ce qui est son plan pour votre vie. Et après, vous allez pouvoir vous engager. Très important. Car c'est là une des choses importantes. Parce que lorsqu'on se marie, on n'est pas marié pour 6 mois. Le mariage aux yeux de Dieu est un lien indivisible que seule la mort peut rompre. Et une fois qu'on s'engage, ça ne va plus. Alors on va divorcer. Mais une fois que vous êtes divorcé, en tant qu'enfant de Dieu, vous mettez dans les tribulations sans fin. Vous n'êtes plus dans le plan de Dieu. Pourtant, vous êtes dans l'Église. Vous allez devenir une source de difficulté pour vous-même, mais aussi pour l'Église de Dieu. Vous avez dit que la parole de Dieu de Salomon, elle a sa place, hein. Il ne faut pas prendre un engagement sacré à la légère et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est mettre la charrue avant les bœufs. Pourtant, il dit engagement sacré. Que Dieu nous aide et qu'il nous éclaire dans ce cadre-là pour que demain, nous ne soyons pas au rang de ceux qui devenons par certains choix que nous aurions faits des sujets de trouble pour le peuple de Dieu. Et puis, cela même peut devenir un sujet de médisance, parce que si quelqu'un nous connaît et qui voit la situation qui est la nôtre après les choix que nous aurons faits, ils ne vont pas manquer de dire, soi-disant, il est chrétien, au regard de son foyer, au regard de la situation dans laquelle il se retrouve. Ah, ils vont rapidement être conduits dans le jugement et vous allez devenir un sujet que les gens disent des choses qui ne sont pas conformes à l'amour et la grâce de Dieu, dont vous avez été l'objet, mais qui malheureusement vous ont entraîné, vous avez manqué de vigilance et de discernement sur un mauvais terrain. Je conclue, hein, parce que le temps passe vite. Dieu n'arrose que là où ce qu'il a planté demeure. Est-ce que tu demeures ce soir là où Dieu t'a planté? Oui, mais je t'en prie, ne te déracine pas pour aller te planter ailleurs. Ailleurs, ce qui te semblerait une herbe verte, peut-être que c'est apparent, peut-être que c'est attrayant, mais même si c'était le cas, l'important c'est que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Planté dans la maison de l'Éternel, comme dit le psalmiste dans le psaume 92, planté dans la maison de l'Éternel. Les justes sont pleins de sève. Il est plein de sève et verdoyant. Et même dans la vieillesse, ils portent encore des fruits. Parce qu'ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Et étant plantés dans la maison de l'Éternel, il y a des images, ils croissent comme le palmier, se dressent comme le cèdre du Liban. Ça veut dire qu'il y a une certaine droiture en vous. La droiture vient de l'ossature que donne le Saint-Esprit. Quoi, c'est comme le palmier. Le palmier, ce qui le caractérise, comme on voit chez nous, le palmier qu'on appelle le cocotier, là où vous le plantez, il va faire en sorte que ses racines descendent profondément dans la terre. Et les racines vont tellement descendre et puis ils vont s'étendre pour former un bloc. De telle manière que lorsque aux Antilles passent des cyclones, certains cocotiers cassent, mais le tronc reste en terre, solidement planté. Plus tu es planté en Jésus-Christ, plus on aura du mal à te déraciner. Laisse-moi te dire même que si tu es planté en Jésus-Christ, Dieu va veiller à ce que tu sois indéracinable. Alléluia, que Dieu soit béni. Mes bien-aimés, vous savez quelque chose, samedi prochain, si Dieu veut, je suis encore là. Alors, on va rester simplement ce matin, et ce soir, on va rester simplement au chant. Et samedi prochain, si Dieu le veut, nous allons voir l'édifice. Je ne veux pas vous demander si ça vous plaît, je sais que ça vous plaît. Parce que ce que Dieu nous donne est toujours plaisant pour notre âme. Prions le Seigneur.